بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Chers frères, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous permet d'être réunis ce soir après la salat de Isha pour essayer d'apprendre un peu plus de la vie de notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Quel honneur qu'Allah nous accorde d'être dans une assemblée, moi-même de faire partie d'une assemblée où l'objectif unique, il y a un seul objectif, c'est de connaître mieux notre prophète alayhi salatu wa sallam pour le prendre comme modèle. Pour augmenter l'amour que nous avons pour notre Nabi, le prophète alayhi salatu wassalam. Et l'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam ne trouvera sa place réellement dans le cœur qu'à partir du moment où le croyant fait des efforts pour étudier sa sirat, sa vie. Si on connaît, subhanallah, comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a commencé sa mission dans un contexte tellement compliqué que, permettez-moi l'expression, sur le papier, ça paraissait impossible cette mission. Sur le papier, ça paraissait tout simplement inaccessible. Qu'Allah Rabbul Izza lui demande d'être, Allah a fait de lui rahmatan lil alamin, une bénédiction pour les mondes, et qu'Allah a promis que cette risala, que ce message va toucher le cœur de toute personne, chaque personne de la péninsule arabe, et que ce message ira de l'Occident à l'Orient, et que nous analysons la situation initiale. La risala de Tawhid descend dans l'endroit où il y a le plus de shirk. On parle de combien de asnam, combien d'idoles autour de la Kaaba? Plus de 360. Ça, c'est autour de la Kaaba. Maintenant, tous les Mekwas ont des idoles dans leur maison. Les tribus sont fiers d'avoir telle idole qui les représente, et ainsi de suite. Un niveau de jahiliya, d'ignorance, qu'une civilisation n'a connu. Un niveau d'éloignement de ce qu'on appelle la fitra, de l'inéité, de la recherche de la vérité, qui a amené ces Arabes à commettre des crimes atroces, entre consommation d'alcool excessif, entre ces personnes qui enterraient leurs filles vivantes, des scènes, des scénarios terribles. Et on se dit que de ces gens-là, Allah Rabbul Izzah va accorder la lumière de la foi. Et ils auront le titre de radiyallahu anhum wa radwan. Ça paraît angoissant, stressant. Le prophète alayhi salatu wa salam reçoit la visite de l'ange Jibril al-Salam, ce qu'on avait vu dans les fois précédentes, avec Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, avec le message de l'unicité. Allah va l'éprouver en retenant la risala pendant quelques temps, l'interruption momentanée de la révélation. Ensuite, Allah azza wa jalla va lui accorder de nouveau des versets, et là la révélation ne va jamais s'arrêter, ça va continuer, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wa salam reçoit Iqra, il est seul dans la grotte avec l'ange Jibril, qu'il ne connaît pas d'ailleurs, qu'il n'a pas pu identifier comme étant l'ange Jibril, et que c'est l'aide de sa chère épouse qu'il a amené voir Waraqa bin Nawfal, qui lui a permis d'identifier que c'était le même ange qui a porté la mission, le message au Anbiya avant lui. Donc le prophète alayhi salat wa salam reçoit sa mission, il est seul. Il en parle à son épouse Khadija radiallahu anha, et comme on avait dit la fois d'avant, c'est la première qui va lire, qui va attester la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais il n'y a que ces deux, l'Allahu Akbar, al-Nabi al-Salam et son épouse. Ensuite il y aura d'autres, on va voir, on va suivre le tertib du livre. Mais maintenant, changer la croyance et la religion de toute la ville de Mecca, qui abrite la Kaaba, mais qui abrite également quantité d'idoles, avec des Arabes qui vivent dans l'ignorance, avec des Arabes qui donnent tellement d'importance au nasab, l'esprit de clan. Que tu sois riche ou pauvre, peu importe, le plus important c'est la noblesse. Un peu comme il y avait en France, hein, la noblesse, le clergé, le tiers-état, mais c'était un niveau beaucoup plus poussé. Et ça arrivait à un tel degré que si dans une tribu, quelqu'un commet un meurtre ou commet quelque chose de mauvais, La tribu va prendre sa défense. Pourquoi? Parce que c'est de son sang. Un niveau de, on appelle ça de Hizbiya Qabaliya, qui est profondément ancré. Comment le prophète alayhi salat wa salam va enlever le shirk de leur cœur, va enlever le sou'ul khuluq pour que ces gens aient les meilleurs des comportements et deviennent des lumières pour l'humanité. C'est la mission la plus complexe, la plus difficile, ce que les mu'arrikhins, les historiens et ceux qui sont spécialisés dans la salle disent que jamais un prophète n'a une mission aussi délicate, aussi difficile. On pourrait dire, là c'est moi qui m'avance, hein, en numéro 2, en termes de difficulté, de complexité de mission, c'était peut-être Moussa alayhi salam. On ne va pas sortir du sujet, hein, on reste dans la sirat, qui va voir Pharaon. Pharaon qui est un royaume, qui est puissant, qui dirige, qui contrôle, qui a droit de vie et de mort, et qui a réduit en esclavage tous les Banu Israël. Et Pharaon qui s'entoure des plus grands sorciers d'Égypte et tout, et qui défie Moussa alayhi salam, il a en face de lui un tyran. Il a en face de lui quelqu'un qui a un mulk, un royaume exceptionnel, comme peut-être personne n'a eu avant lui. Sa mission était également extrêmement complexe. Allah lui a accordé sa nusra, et on connaît l'histoire de Moussa alayhi salam. Mais l'histoire de notre prophète alayhi salatu wassalam, elle est brillante parce qu'il n'y avait pas un pharaon, il y en avait énormément. Abu Jahal était un pharaon. Abu Lahab était un pharaon. Et d'autres encore, d'autres, ce qu'on appelle les Zu'ama, les chefs de tribu de Mecca, c'était des Fara'ina. C'était des gens qui avaient une noirceur de le cœur, une méchanceté, le cœur rempli d'hypocrisie, de mauvaises intentions, et qui ont totalement changé leur comportement avec le prophète alayhi salatu wassalam. Au début, on l'appelait comment? Al-Amin, l'homme de confiance, l'homme que tout le monde aimait à Mecca, celui qu'ils avaient choisi pour replacer là, la pierre noire. Et du jour au lendemain, lorsqu'il va prêcher la ilaha illallah, on va l'accuser de menteur, de sorcier, d'usurpateur, de quelqu'un qui veut peut-être prendre le contrôle de Mecca, et ainsi de suite. Et on va l'accuser, on va essayer de salir son nom, on va l'insulter, on va essayer de le frapper, de porter atteinte à notre prophète physiquement. Il aura la protection d'Allah dans la plupart des situations, sauf quelques situations qui est voulues par Allah. Je m'étale un peu, comme lorsqu'ils ont, on verra ça hein, progressivement, ils ont versé des intestins de chameau sur le Prophète qui était en état de soujoud. Ou comme à Taïf, les Banu Thaqif qui l'ont jeté des pierres, je ne vais pas dire le mot lapidé, qui ont jeté des pierres qui ont blessé le corps Moubarak, le Prophète alayhi salat wa salam, ou lors de la bataille de Uhud, où le Prophète a perdu une de ses dents, où il est tombé dans un trou. Il a eu beaucoup de taklif, il saignait le Nabi alayhi salat wa salam, prophète d'Allah qui saignait. Ce sont des situations où Allah a laissé l'épreuve toucher son prophète pour une hikmah, pour une sagesse qui est connue que de notre Seigneur, Azza wa Jal. Mais dans les autres situations, dans la majeure partie des situations de sa, on va dire, de son message, de son vécu, il a la protection et l'aide d'Allah Azza wa Jal. Donc, allez, on se reconcentre. On revient sur ce que Al-Mubarak Fawri, rahimahullah, écrit. Je lis, comme d'habitude, on lit un peu. Le cheikh dit, on parle de ce qu'on appelle, je n'ai même pas dit le titre, excusez-moi, l'effort sur la voie de prédication. Il aurait pu mieux traduire. Voilà, la prédication secrète. On appelle en arabe Ad-Da'wa As-Sirriya. La première période de la mission du prophète alayhi salatu wassalam, sous l'ordre d'Allah, de propager le tawhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, secrètement. Ne pas le faire ouvertement. Et c'est là que nous voyons la grande sagesse qu'il y a dans notre religion. Le juste milieu. Ce n'est pas une religion qui te demande de faire des choses qui vont être préjudiciables directement. Non, il y a une sagesse. Et cette première phase de la da'wah qu'on appelle la prédication secrète va durer 3 ans. 3 ans de patience, mais 3 ans de sincérité. Que les gens qui vont accepter l'islam, ils vont avoir une sincérité de leur cœur qui dépasse la sincérité que n'importe quelle personne peut cumuler jusqu'à la fin des temps. Al-Mubarak Fawri, rahimahullah, il dit que Mecca jouait un rôle essentiel, central de la vie religieuse des Arabes, et ses habitants étaient les gardiens de la Kaaba. Et je vais un peu plus vite, la protection des idoles vénérées, na'ouz billah, par tous les Arabes, était à la charge des Mécois. Le sharaf, l'honneur des Mécois, c'était d'être, bien sûr, dans le khidma de la Kaaba. Ils servaient l'eau aux pèlerins qui venaient faire le hajj dans le jahiliya. Ils avaient la clé de la Kaaba. Ils avaient donc un rôle en lien vers la Kaaba, mais l'honneur des Mekkois et des Quraysh, de façon un peu plus prononcée, c'était d'être les Khadim, na'oudou billah, d'être ceux qui étaient au service des idoles de Mecca. Et là, nous voyons la malhonnêteté, on va dire intellectuelle d'une certaine façon, de ces Quraysh qui ne vont jamais accepter le message du Prophète sallam. Parce que, au plus profond de leur cœur, ils savaient que c'était haq. Ils savaient. Certains allaient le soir écouter le Coran sans que personne ne les voie. Et si un compagnon, un de leurs amis, les voyait, il dit « Oksou fela » Non, ben, promène. Ils savaient que c'était haq. C'était trop puissant. Et je m'étale, hein, je me perds un petit peu, mais c'est des notions que tout le monde connaît. On essaie de rassembler tout ça pour comprendre le contexte. Et Allah fait descendre ce Coran dans une langue arabe, mubin, fasih, qui est d'une beauté inégalable. Et que là, il y a quelque chose qui va toucher les Quraysh directement. Parce que les Quraysh étaient connus parce qu'ils étaient également les gardiens de la Kaaba, des idoles, mais c'était également la tribu qui parlait l'arabe la plus pure. Et chez les Arabes, à Mecca, il y avait des concours de poésie. Tellement ils avaient atteint le paroxysme de la maîtrise de la langue arabe, que les plus beaux poèmes étaient brodés, tissés ou comment on dit ça, en fil d'or, et c'était affiché dans la Kaaba, les plus grands poètes. C'est-à-dire qu'en termes de maîtrise de la langue arabe, on n'arrive pas à leur cheville. Hein. Même nos grands savants de grammaire, quelles que soient les époques, non, les Quraysh étaient les pros de la langue arabe. Et ce Coran touche leur cœur parce qu'ils voient que ce style n'est pas un style humain connu. Ça dépasse de loin. Et le jugement d'un amateur n'est pas le jugement d'un professionnel. Là, on a affaire à des pros, je le répète. Et quand c'est eux qui entendent le Coran et qui sont étonné de la balara, de la beauté de ces versets, ça les met forcément mal à l'aise. Parce qu'ils ont tout de suite compris que c'est haq. Vous savez, Pharaon aussi avait compris que c'était la vérité. Pharaon aussi, si on pouvait faire un parallèle, il avait compris que c'était haq. C'est pour ça que quand il est noyé, qu'est-ce qu'il dit? Il atteste qu'il croit en Allah. Et Al-Ana, on connaît le verset, et je... Al-Ana, Zakaria, Al-Ana wa qad asayta qabla wa kunta minal mufsidin. D'accord? Permettez-moi, il y a une deuxième lecture que j'ai appris, Tarawih Khali Mustafa. Al-Ana, je trouve ça magnifique. Donc je suis parti tout de suite demander comment ça se fait, expliquez-moi. On n'arrête pas d'apprendre. On peut dire, c'est pas notre niveau, hein. C'est pas moi qui va lire comme ça. Si on n'a pas la connaissance du tajwid comme eux, comme ceux qui ont fait ce genre d'études, on ne s'y avance pas. On peut dire, c'était Al-Ana, mais il avait dit Al-Ana. Je trouvais ça magnifique. Bref, je refais la parenthèse. Pharaon, au moment de mourir, il dit, c'est-à-dire ce qui sort de son cœur, c'est que c'est haq. Mais c'était trop tard. Et les Quraysh, ils savent que c'est la vérité en entendant le Coran et tout. Mais, et là, je rejoins le fait qu'ils étaient gardiens des idoles. Qu'est-ce qui les empêchait d'accéder et d'accepter au message du Prophète sallam? C'était l'orgueil, les avantages, les acquis, la transmission de pouvoir de génération en génération. Ils sont gardiens de Lat, donnez-moi d'autres noms d'idoles, Uzza, Hubal et d'autres encore. Ils sont gardiens de ces idoles depuis des générations, ils se le transmettent. Et ils sont respectés par toute la péninsule arabe, et quand je dis toute la péninsule arabe, hein, faites sauter toutes les frontières qu'on connaît. Hein. Il n'y avait pas l'Arabie Saoudite, Qatar, Oman, Dubaï, et ainsi de suite. Non, on parlait de Al Jazeera, l'Arabie, la péninsule arabe. D'accord? Et ils étaient donc respectés de tous, parce que, en plus, je répète, de la Kaaba, ils étaient les responsables de ces asnam, de ces idoles. Donc ils savaient que reconnaître l'unicité d'Allah, ça voulait dire perdre leurs acquis. Ça veut dire que Allat, Al-Uzza et Hubal, ainsi de suite, n'auraient plus aucun intérêt. Les gens vont réaliser que ce ne sont que des pierres. Et du coup, ils perdent leur sharaf. Et celui qui invite vers le tawhid, c'est lui qui est suivi. Et l'orgueil fait qu'ils n'ont jamais voulu ça. Certains. Et on va voir ceux qui sont morts de le shirkum. Donnez-moi les deux noms. Abu Jahal et Abu Lahab, c'est ce que je demande à mes élèves de retenir comme deux noms, Abu Jahal et Abu Lahab, c'est que ils sont restés dans le batil par fierté. Hada. On reprend. Il y avait un truc important que j'allais dire, mais khair, ça reviendra, inshallah. Donc, c'est pourquoi la réforme y était encore plus difficile à réaliser. Œuvrer dans cette perspective de ce milieu hostile, voilà, il disait que ça nécessitait une volonté, une détermination sans faille face aux malheurs et aux calamités. C'est ce qu'on a résumé en disant que c'était une des missions les plus complexes, d'accord. Et savant disait également que, voyez la hikmat d'Allah, on aurait pu se dire que, je dis ça comme ça, Allah aurait pu faciliter les choses, que la risala arrive à Madina, où les gens étaient moins axés sur l'idolâtrie. Ils y étaient, hein, les Aous et Khazraj et ainsi de suite, mais c'était moins asabiya, on va dire, que chez les Quraysh. Que le prophète aurait pu être prophète à Madina, et que Madina devient musulman, comme Madina a accepté l'islam en très peu de temps. C'est toute la lumière qu'Allah a mis dans cette ville, et que de Madina, le message va à Makka. On aurait pu dire que ça aurait été plus simple. Non, Allah a décidé que ça se passe comme ça. Dans le berceau même où il y a les idoles, c'est là qu'Allah Rabbul Izzah envoie son message. Et voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est le verset. C'est un verset que je ne suis pas sûr de le retrouver. Maintenant qu'il est là. Oui. Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Ujab. C'était ça le problème. C'était le blocage. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Quoi, tous ces idoles qu'on a depuis des années, on adore. Je veux dire que tout ça, en fait, il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'était inacceptable pour les Quraysh, pour certains Quraysh. Donc, oui, et c'est la sagesse d'Allah que le message descend à Makkatul Mukarrama avec les difficultés qu'il va y avoir. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, dès les premières approches, quand il comprend qu'il est prophète d'Allah, quand il va voir Waraqa bin Nawfal, Waraqa bin Nawfal lui dit quelque chose qui va le choquer. Parce que quelqu'un se rappelle de ça. Au Mukhriji. Il dit que tu vas connaître des difficultés, des problèmes, et ton peuple va te chasser. Le prophète a écouté tout, mais quand il a dit ça, il était choqué. Mon peuple va me chasser. Parce que pour lui, quitter Makka, c'était inimaginable, impensable. Et que d'autant plus, ce peuple qui le considérait comme le meilleur des hommes, il était aimé de tout le monde. Et ça, on avait vu en introduction, personne n'a jamais eu à dire quoi que ce soit sur lui. Tellement Allah lui a donné un comportement, une noblesse de caractère depuis qu'il était enfant. Une noblesse de caractère qu'un enfant n'a pas normalement. On a vu dans ses choix, dans ce qu'il faisait, c'était Mubarak. Il était déjà rahmatan lil alamin. Et donc, le prophète était choqué. Comment mon peuple, Quraysh, va me chasser, moi, qui est aussi Quraysh, qui est des Banu Hashim. Et on avait vu en introduction que parmi les branches de Quraysh, le prophète descendait de la branche la plus noble. Il n'était pas riche. Il était pauvre, alayhi salatu wassalam, mais il était respecté pour la noblesse de sa ligne et pour son bon comportement aussi. Donc ça, dès le départ, dès les premiers instants où il comprend qu'il est prophète, Allah décide que Waraqa bin Nawfal lui annonce que ça va être une mission complexe et qu'il y aura des difficultés. Des difficultés qu'il n'imagine même pas. Allez, on continue. Le prophète, alayhi salatu wassalam, va commencer la da'wah au sein de son foyer. Et donc, la première personne qui va accepter le tawhid, c'est son épouse Khadija, radiallahu anha, ça on avait dit la dernière fois. Ensuite, il y a un enfant qui s'appelle Zayd ibn Haritha ibn Shurahbil, radiallahu anhu, un enfant. Et là, on ne va pas développer chaque point, mais ça nous fait comprendre également la place de l'enfant en islam. La place de l'enfant en islam. L'enfant, ça représente quoi? Ça représente l'avenir. Mes chers frères, il faut donner de l'importance aux enfants, de leur éducation, tout ça bien sûr, mais même quand les enfants viennent à la masjid, il faut honorer ces enfants. Je ne vais pas comparer des pays, c'est vrai qu'en Turquie, on a dû voir des reportages ou vu sur les réseaux sociaux comment il y a un endroit pour les enfants et comment, bref. Mais il y a des fois où, j'ai dit que je ne voulais pas sortir du sujet, mais le fait que Zayd, c'est la deuxième personne qui a dit « La ilaha illallah », c'est un enfant, ça nous fait comprendre que l'enfant, c'est l'avenir de l'islam, et que donc, quand nos enfants viennent à la masjid, ils méritent, je ne dis pas le mot respect, le respect c'est un truc pour adultes, mais de la considération et de la muhabba. Que les enfants ressentent qu'ils sont les complétés, qu'ils sont les bienvenus à la masjid. Vous savez, moi, ce qui après, j'ai pas mon mot à dire. Je respecte les fonctions de chacun. Des fois, il y a un enfant qui arrive tout à la masjid. Il fait la salah, pas devant, au quatrième rang. Après, la salah, enfin, les gens arrivent et tout, comme moi, en retard, ainsi de suite. Et là, il y a quelqu'un qui vient, qui le tire par le col, qui le ramène derrière. Comme on dit en créole, il casse son namaz d'une certaine façon. Mais quelle considération cet enfant, il a pour lui-même? Que mon amas, ma salah ne compte pas alors aux yeux de cet adulte-là. C'est une salah qui n'a aucun intérêt. Parce que si on peut me tirer, me râler, me pousser au fond, je ne parle pas des maslahs, mais je veux dire qu'il faut un minimum de sagesse. Des fois, si on a un enfant qui fait un peu de bruit, je ne dis pas ceux qui paient à tube, hein, mais voilà, ça parle un petit peu, ça rigole et tout. Mais c'est un peu de vie aussi, non? C'est un peu de la vie qu'on amène à la masjid. Bien sûr, à la limite des stocks disponibles, de ce qui est supportable. Je ne dis pas un enfant qui vient, qui chante, qui fait un azam ou qui met... Non, on a bien compris. Mais allez, un enfant, ça reste un enfant. Si à la masjid, il se sent malvenu, mal accueilli, il n'y a aucune considération, moi, j'ai cette crainte qu'il soit, je ne dis pas dégoûté, mais qu'il ait un peu d'appréhension maintenant. Quand il va grandir, 7 ans, 8 ans, où il devient un peu plus posé, plus sage, il va dire, oui, mais là-bas, tout le temps, même tonton, il crie avec moi. Le tonton, la fois, la râle aux oreilles. L'autre fois, le tonton, la râle à moi, la batte à moi, l'autre côté à terre, et ainsi de suite. Je pense que c'est pas une bonne chose. Après, oula, on est vraiment hors sujet. Mais après, quand les enfants sont petits, idéalement, le papa fait namaz avec son fils. À côté de lui, dans un coin. Contre un mur. Si tu veux pas qu'il joue avec les enfants et tout, contre un mur, et toi, tu es à côté de lui. Et au moins, il est avec toi. Il cause taklif à personne. Mais que l'enfant, depuis qu'il est petit, il apprenne à venir à la masjid. Il apprenne à poser son front sur le moussalla. Parce que le garçon qui fait namaz avec sa maman à la maison, c'est pas pareil. Nous, on veut que cet enfant, son cœur soit attaché à la masjid. Donc, il faut que quand il vienne à la masjid, qu'il y ait un minimum, ou alors plutôt un maximum de considération pour lui. Ça, c'est extrêmement important. On n'a jamais entendu le prophète bousculer un enfant. Voilà, chez Abadan. Bien, allez, je referme cette parenthèse. Numéro 2, Zayd. Ensuite, il y a le cousin du prophète alayhi salat, qui était très jeune. C'était un adolescent. Il s'appelait Ali ibn Abi Talib. On a différentes catégories de personnes là. Une femme, un enfant, un jeune, et ensuite, Abu Bakr al-Siddiq. Celui qui, citation, si le iman de Abu Bakr était pesé d'un côté de la balance. Est-ce que vous avez déjà vu une fin? Je parle pas des balances électroniques, les balances d'antan, là, où il y a les deux côtés avec des poids. Il y a encore ça. Si le iman d'Abu Bakr, radiallahu anhu, était d'un côté de la balance, et que de l'autre côté, on mettait le iman de tous les sahaba, et de tous les croyants jusqu'au qiyama, en dehors des prophètes, bien sûr, la rajjah. L'iman d'Abu Bakr pèserait plus loin. Un homme extraordinaire, qui a été créé pour ça. Allah l'a créé pour être le bras droit, le compagnon de Mohammed Mustafa alayhi salat wa salam. L'amour que nous devons avoir pour Abu Bakr devrait nous faire frémir. J'ai des frissons. L'amour qu'on doit avoir pour Abu Bakr, c'est exceptionnel. Tellement, si je suis musulman aujourd'hui et je fais un programme et que nous écoutons un programme 27 à Montreuil, c'est parce qu'Abu Bakr s'est levé, il a fait la da'wa. La hidayah par la grâce d'Allah, ensuite par l'intermédiaire du prophète alayhi salat wa salam, et le travail de cet homme Abu Bakr. Parce qu'on va voir combien de personnes se convertissent grâce aux efforts et à la da'wah d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Et j'ai oublié une petite précision, les savants disent également le fait que ces premières personnes, son épouse, cet enfant, Zayd, Ali et Abu Bakr al-Siddiq, ils ont immédiatement accepté que Mohammed est prophète d'Allah. Parce que ils ont vu que cet homme était exceptionnel. Depuis le début. Donc les savants disent que quand tu es sincère, avec un bon comportement, et que ton but c'est uniquement rechercher le contentement d'Allah, ta parole touche les cœurs. Ta parole touche les cœurs. Et le prophète n'était pas celui qui faisait de grands discours. Regardez, lisez les hadiths. Une fois seulement, le prophète alayhi salat a fait un grand, ce qu'on appelle un grand bayan, un grand vaez, comme on dit. C'était concernant les signes du qiyam, où il a gardé le sahaba jusqu'à une salat, ils ont prié, et il leur a demandé de rester, il a continué, mais le reste du temps, le prophète se contentait de paroles très simples. Mais des paroles qui venaient d'un cœur tellement pur, que la parole là touchait le cœur comme une flèche. Et ça rentrait directement. Ça illuminait le cœur tout de suite. Sauf si Allah n'a pas écrit la guidée. Pour une raison qui est connue que d'Allah. Des fois, c'est l'orgueil. Des fois, c'est la fierté. Mais des fois, il n'y a ni orgueil ni fierté. Mais juste qu'Allah ne veut pas de toi. Et là, j'ai pas de réponse. Personne n'a de réponse. La seule chose qu'on doit demander, on doit avoir, j'ai encore des frissons, je sais pas pourquoi, la clim l'éteint. C'est pour ça qu'on doit demander, ihdina as-sirata al-mustaqim tout le temps. Oh Allah, guide-moi vers le droit chemin. Oh Allah, que tu ne sois jamais déçu de moi. Ne m'éloigne pas jusqu'à la mort, jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne reprendre mon âme. Ihdina, c'est une hidaya qui accompagne le croyant jusqu'à son dernier souffle et qu'il meurt avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et là, khalas, mission accomplie. Tu es accepté par ton Seigneur et il n'y a rien de plus beau que ça. Que de quitter ce dunya avec Risalatul Tawhid sans qu'il y ait de péché dans ton livret de compte. Je ne rentre pas dans les détails, que tu as demandé istighfar, tu as fait des amal qui ont permis de laver tes péchés. Quitter ce dunya avec les anges qui te disent que ton Seigneur est satisfait de toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que nous voulons de plus? Pourquoi on veut se fatiguer auprès du notaire pour récupérer une parcelle de terre que mon frère ou que ma sœur a pris, que j'aurais dû avoir? Je vais casser les liens avec les proches, je vais faire des procès, je me casse la tête pour de la terre qui ne m'accompagnera pas de mon kabbal. C'est une autre terre qui me date à tombe. Quand il t'enterre, hein, c'est pas la terre de ton domaine, c'est une terre, la terre de Kabrestan. La terre du cimetière. Et toi, tu as passé ta vie à faire pousser des immeubles, à fructifier, à gagner. Et pour ça, des fois, c'était de façon licite. Mais quand c'est de façon illicite, hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ce musulman qui quitte sa maison, alors qu'il a fait namaz fajr en jamaat, et qu'à 8h30, il a rendez-vous avec son banquier, chaque pas qu'il fait, c'est un pas de haram. La désobéissance dans le mécontentement d'Allah. Et qu'il va demander un prêt avec intérêt, on a compris de quoi je parle, pour pouvoir acheter un terrain ou pour avoir une franchise pour, et ainsi de suite. Et il ne réalise pas que notre Rabb Azza wa Jal a dit, rappelez-moi le début du verset, que ceux qui consomment l'intérêt, « La yaqoumouna illa kama yaqoumou alladhi yatakhabbathuhu ash-shaytan min al-mass » Quelle zilla, quel déshonneur, le jour de Qiyama. On verra, on va voir tout nous le jour de Qiyama. On voit tout ce qui se passe. Même si c'est une plaine de millions, milliards de kilomètres carrés, Allah seul le sait, mais Allah permet à chaque personne de ressusciter de voir, de connaître tout ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de caméra, de haut-parleur, il y a une compréhension, une vision globale. On voit des gens qui sont appelés par leur nom pour être sous l'ombre du trône d'Allah. Quel honneur! Allahumma ja'alna minhum, amin. Et d'autres personnes qui, lorsqu'ils sont ressuscités, ils sont comme possédés. Ils sont fous. Quel déshonneur parce que ils ont consommé de l'intérêt sur ce dunya. Et moi, je fonce pour avoir un peu plus. Entre celui qui gagne 3000 euros par mois, celui qui gagne 30 000. Qui a dit que celui qui gagnait 30 000 était plus heureux? Qui a dit? Combien de cheveux blancs? Et à un moment donné, il n'y a plus de cheveux. Combien de soucis? Combien d'angoisses, combien de gens que tu te mets à dos. Bref, combien de jalousies, ainsi de suite. Qu'Allah nous permet de comprendre les choses. Le dunya, la vie, c'est simple. Regardez combien de personnes nous ont quittés. Allah, 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 Allah. Je sais pas, il n'y a pas de chiffres. Je sais pas si le 20 m'a... Comment on appelle ça? Statistique, d'accord? Du taux de mortalité de la communauté. Bon, il y a eu le Covid, hein, ça c'est autre chose. Ça c'était vraiment une maladie, mais... Après, je sais pas, peut-être parce que les gens qui nous quittent, c'est des gens qui étaient connus, je sais pas. Après, chacun dit oui, mais il est connu comme sous de famille. Non, non, je veux dire, c'est des gens qu'on voyait. Et je ne cite pas de nom, mais quand on parle de Thomas Soumrandera qui nous a quittés, hein, quel âge? On meurt pas à cet âge. Scientifiquement, on meurt pas à cet âge. Ça rentre pas dans le average, comme ils disent en anglais. Quand on voit les gens qui quittent ce dunya, on se dit que, ben, en finalité, c'était que ça. C'était 50 ans, 55 ans, 60 ans. Mada qaddamta. Quand quelqu'un meurt, les anges, quand ils sont dans la tombe, ils demandent qu'est-ce qu'il a ramené. C'est-à-dire comme bonne action. Alors que les gens demandent qu'est-ce qu'il a, mada akhara. Mada akharta. Qu'est-ce qu'il a laissé? Vous savez, quand le papa ou le grand-père, peu importe, meurt, on pleure, on pleurniche peut-être. D'accord? quand on a fini, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de bois de mouchoir et que l'émotion est passée, qu'est-ce qu'on veut? Foulous. Miraf. Et là, on devient mufti. Voilà, yusikum Allahu fi awladikum. Là, on connaît ayat de miraf, le bout des doigts. Chacun veut son morceau de, je vais dire ce bout de gras, mais c'est très péjoratif. Chacun veut sa part, ce qui est licite, hein, ce qui est halal. C'est ce qu'Allah a prescrit. Mais voilà la réalité. Toute ta vie, tu t'es privé, tu as amassé, cumulé, tu en arrivais à là. Quand tu tournes le dos, tes enfants qui ont grandi, qui ont joué à côté de toi, ils sentent, je ne sais pas, c'est une réalité, mais des fois, voilà, zizanie pour pouvoir hériter du papa. Et toi, et je connais des gens qui vivaient dans la... Ils avaient beaucoup, mais ils étaient... Je ne dis pas qu'ils étaient radins, mais ils ne voulaient pas dépenser. Ils voulaient vraiment garder pour... construire encore plus, peut-être parce que quand ils étaient petits, ils ont grandi dans la difficulté, donc ils veulent pas mener une vie face, ce qui est tout à fait noble et que je respecte. Donc à que les enfants fait cadavre de ça, ils gagnent l'argent dans la main comme ça, une part d'héritage à 400 500 000 euros, quand il va faire cadavre, il va mener la belle vie. Enfin bref, excusez-moi, on est parti très loin et beaucoup trop loin, très très loin. Donc quand quelqu'un est sincère, le message touche le cœur immédiatement. C'est pour ça que ces premières personnes ont accepté l'islam. On va compléter. Ensuite, Abu Bakr al-Siddiq, la quatrième personne. Abu Bakr était un homme riche, serviable, doux, vertueux. Les gens à Makka l'aimaient. Et Allah avait donné cette fitra aussi à Abu Bakr, qu'il n'a jamais bu d'alcool de sa vie. Et qu'il ne s'est jamais prosterné devant une idole. Contrairement à d'autres sahabas, qui ont connu la jahiliya comme tout le monde, mais Abu Bakr, parce qu'il devait être le bras droit du prophète sallam. Et il devait être également, trouvez mon adjectif,
irréprochable.
Oui, intouchable, irréprochable. Comme c'était l'homme de main, c'était le bras droit du prophète sallam. Et c'est pas possible qu'on dise à Abu Bakr, oui, mais quand tu étais jeune, tu as fait ça, tu étais avec nous quand on se prosternait devant les idoles. Non, personne n'avait quoi que ce soit à dire, ni sur le prophète alayhi salatu wassalam, ni sur Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. On continue. On va juste citer les gens qui se sont convertis. Et je vous dis, c'est très prenant parce que c'est des noms de sahaba qu'on entend tout le temps. On lit les récits des compagnons, la vie des sahaba, on entend les hadiths. Des fois, on connaît leur histoire. Des fois, on a juste entendu le nom. Mais tellement on entend que c'est connu. C'est dans notre mémoire, on connaît ce sahaba. Mais il faut savoir qu'il y a eu un début pour leur islam. Ils étaient dans l'ignorance, comme tout le monde, comme Allah a prédestiné. Et qu'il y a eu un commencement pour leur retour vers le haq. Et c'était grâce, entre autres, à Abu Bakr al-Siddiq. Alors, Mubarak Fawri, il a fait un magnifique travail. Il dit, grâce à ses efforts personnels, par la guidée d'Allah, bien sûr, on le comprend, hein, un bon nombre de gens se convertissent à l'islam. Et là, on a Uthman ibn Affan, la classe. Uthman ibn Affan. Qu'est-ce que Uthman a apporté à l'islam? Le puits qu'il a acheté pour les musulmans, tout ce qu'il donnait... Personne n'a donné autant que Uthman. Et le prophète m'a dit que tout le monde a donné. Mais ce que Uthman a donné, c'était exceptionnel. Mais le sacrifice d'Abu Bakr était supérieur à Uthman. Uthman ibn Affan se convertit par la da'wah d'Abu Bakr al-Siddiq. Az-Zubair ibn al-Awwam. Abdurrahman ibn Awf. Sa'd ibn Abi Waqqas. Talha ibn Ubaidillah. 8 personnes. Je ne sais pas si j'étais les 8. Ces 8 personnes furent véritablement les précurseurs et constituèrent l'avant-garde de la nouvelle foi. Donc, au début, il y avait 4, ensuite, il y en a combien ? 8. Vous voyez comment ça progresse. Mais doucement, le prophète Sam n'était pas homme à désespérer. Se dire que, mais en tant nombre de jours, il n'y a que 4, il n'y a que 8, il n'y a que 10, et ma mission, c'est pour le monde entier. Ce n'est pas qu'il disait que oui, c'est une pression sur mes épaules, je ne pourrais pas y arriver. C'est comme si quelqu'un vous donne une mission au travail, au bureau, il faut faire telle chose. Et que dit que oui, mais au bout d'une semaine, j'ai fait que 1%. On désespère, on craque. Pour ça, vous savez que la guidée était dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les premières personnes à accepter l'islam, Bilal ibn Rabah, j'avais prévu de développer, de dire quelques points sur Bilal, mais on gardera ça pour la prochaine fois. Abu Ubaïda Amir ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, Abu Salama, Al-Arqam, il y en a trop là. Et on compte à peu près, enfin il y en a trop, il y a trop de noms à citer, je veux dire. Mubarak Fawri dit que ces précurseurs-là, ils sont au nombre de 40. 4, 8 et maintenant 40. Mais ces 40-là, C'était une fondation extrêmement solide. C'était un niveau de iman qu'aucun peuple, aucun prophète n'a eu de compagnon aussi pieux dans leur mission. Des sahaba aussi solides, solidaires, sincères, que le cœur vraiment est baigné dans le tawhid, dans la mission du prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Et la prochaine fois, on parlera de Bilal et on parlera également de Al-Arqam. On parlait des enfants tout à l'heure. Quel âge avait Al-Arqam à sa conversion ? 11, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'il y en a des versions qui disent 18. Ce que je connais, c'est que 11 ans. 11 ans. 11 ans, c'est quoi, vous devez jouer 11 ans. Al-Arqam, le livre est fermé. Al-Arqam, ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est qu'il avait un endroit, un terrain, une maison, on va dire, qu'il appartenait, c'était à lui. Et il avait donné cette maison, comme on pourrait dire, comme un waqaf, pour le prophète sallam. Et c'est là que le prophète sallam, à chaque fois qu'il recevait la révélation, il se retrouvait avec les sahaba et leur enseignait le Coran. La première madrasa de l'islam, ça appartenait à qui ? Un enfant. Al-Arqam ibn al-Arqam radiallahu anhu. Qu'Allah Rabbil Izzah nous donne la possibilité de comprendre, de réaliser la puissance de notre dîn et la guidée qui vient d'Allah, subhanallah, et les qualités de nos prophètes alayhi salatu wa sallam, qu'Allah nous accorde un peu de ces qualités, qu'Allah enlève de notre cœur tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui nous empêche de progresser, et qu'Allah nous accorde la hidayah wa tawfiq illa billah. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alamin.